VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, un casque bleu a été tué aujourd'hui dans l'attaque d'une base de l'ONU dans l'est du pays par un groupe armé d'origine ougandaise, les Forces démocratiques alliées, les ADF. La base de Mamoundioma a été attaquée à 5h30 entre Kamango et Mbao, a souligné la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. 12 casques bleus ont également été blessés, a précisé une porte-parole de la MONUSCO au sujet de cette attaque dans le territoire de Beni, l'une des divisions administratives de la province du Nord Kivu, où des combats à l'arme lourde avaient opposé dimanche des membres des ADF à l'armée nationale congolaise, les FARDC. Une réunion de crise est au programme ce lundi au siège de la MONUSCO dans la capitale congolaise, Kinshasa. Les affrontements font suite à l'enlèvement de plusieurs dizaines de civils samedi dans le territoire de Beni, un kidnapping que les autorités congolaises attribuent aux ADF. De Goma, chef du lieu du Nord Kivu, plus de détails avec notre correspondant Charlie Karisereka. Nous continuons notre programme. En RCA, la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique, mène une opération militaire de grande envergure à Bokaranga, dans le nord-ouest du pays. Objectif chassé de cette ville, un groupe armé local baptisé 3R.
Le samedi dernier, vers la fin de l'avant-midi, ces islamistes des ADF ont intercepté au total 9 motocyclettes, à bord desquelles se trouvaient des passagers et d'autres passants qui se dirigeaient vers la ville de Beni. La société civile, sur place, parle d'au moins 32 personnes qui ont été prises en otage. 7 femmes ont été relâchées par ces rebelles et 3 hommes ont réussi à s'échapper. Et pour l'instant, on ignore le sort des 22 otages restés entre les mains de ces rebelles qui ont exécuté sur place 3 personnes avant d'incendier toutes les 9 motocyclettes devant leur femme rescapée qui s'est confiée à l'organisation de la société civile sur place à Beni, CEPADO en sigle. L'un des porte-parole de l'armée dans la région de Beni a indiqué que pour l'instant, la route Beni-Kamango reste bloquée jusqu'à nouvel ordre. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Il s'agit bien sûr de notre correspondant à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, Charlie Kasereka. Nous revenons à la RCA et à la MINUSCA. En RCA donc, la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique, mène une opération militaire de grande envergure à Bokaranga dans le nord-ouest du pays. Objectif chassé de cette ville, un groupe armé local baptisé 3R, Eric Manirakiza.
La MINUSCA a engagé des moyens importants, y compris des hélicoptères. Cette opération a été lancée depuis samedi matin. Elle est destinée à expulser les éléments d'une groupe armée 3R de la ville et y rétablir la sécurité. Dans un communiqué, la force de l'ONU indique que les objectifs initiaux de l'opération ont été atteints. L'effort en cours vise à sécuriser la ville et ses environs afin d'empêcher le retour à Bokaranga des 3R et d'autres éléments et groupes armés, y compris les anti-Balaka. Cette action vise à assurer également la protection de la population civile. Une partie a trouvé refuge autour de sa base sous la garde vigilante des casques bleus. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide Adama Dieng, en visite dans le pays, s'est dit profondément préoccupé par la nouvelle flambée de violence. Bokaranga a été le théâtre de récentes violences. L'opération de la MINUSCA devra également toucher la localité de Bang dans le nord-ouest. Les groupes armés s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles comme les diamants, l'or, le bétail et dans d'intenses luttes politiques pour accéder aux maigres ressources du pouvoir.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, plus de 2300 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram détenus dans des camps militaires comparaissent devant la justice à partir d'aujourd'hui. Ces procès vont se tenir dans le plus grand secret et soulèvent déjà le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérian. Aloïs Bigirimana.
La justice va d'abord juger quelques 1670 personnes détenues dans un centre militaire de Kayinji. Les dossiers de 651 prévenus du camp Giwa à Maïdougouri, capitale du Borno et épicentre du conflit, suivront de près. La plupart sont détenus depuis des années dans le secret, sans avoir vu ni avocat ni juge. D'après Matthew Page, ancien spécialiste du Nigeria au département d'État américain, il s'agit du premier procès significatif de suspects de Boko Haram. Les chiffres officiels indiquent que seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec l'insurrection djihadiste. Les audiences auront lieu à huis clos, au sein même des centres de détention militaire. Un avocat nigérien a estimé que cette mise à écart des médias envoie un mauvais signal d'une justice non rendue ou de compromission. Amnesty International avait alerté en juin 2015 sur les conditions de détention horribles des centres militaires. Cette ONG disait que 7000 personnes seraient mortes de faim, d'étouffement ou de torture depuis 2011.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Ghana, des explosions dans des stations-service d'Accra, la capitale, ont fait 7 morts et 132 blessés, dont 68 reçoivent toujours des soins. Le gouvernement a promis d'agir pour améliorer la sécurité de ces installations. Michel Joseph.
Un incendie s'est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'un camion transportant du gaz naturel dans le quartier de Legon, à Accra. Le feu s'est ensuite propagé à deux stations-service proches et a entraîné des explosions en série. Cette catastrophe a provoqué une vague de réactions. Les Ghanéens ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, critiquant la dangerosité des stations-service. La plupart sont situées près d'écoles, d'hôpitaux et de commerces. Une pétition en ligne adressée au président Nana Akufo-Addo exige une réglementation plus stricte et des inspections des installations. Le président ghanéen a aussitôt annoncé qu'un conseil des ministres se tiendrait jeudi pour aboutir à un programme exhaustif destiné à éviter de nouveaux accidents. En juin 2015, un incendie similaire et une explosion dans une station-service avaient fait plus de 150 morts.
Au Bénin, c'est en septembre 2011 que la fécondation in vitro est devenue une réalité dans le pays grâce à une initiative d'une clinique privée, mais ce traitement n'est pas à portée de toutes les bourses. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Je n'ai pas d'enfant. Et d'hôpital en hôpital, mon médecin à un moment donné m'a dit, j'ai une solution pour toi.
Ce genre de refrain est commun à bien de femmes qui, même armées de la plus grande volonté, n'ont pas la chance de connaître les joies de la maternité. Frappées d'infertilité, elles sont la risée de la belle famille qui arrive pour la plupart du temps à convaincre les hommes à rechercher sous d'autres cieux des femmes pouvant leur assurer une descendance. Jusqu'à une certaine époque, la seule solution possible était les guérisseurs traditionnels. Mais depuis quelques années, un médecin réussit l'exploit et aide à la mise au monde des trois premiers bébés éprouvettes. Un événement qui lance au Bénin la fécondation in vitro. Le docteur Sodiedo encore aujourd'hui reste sous le charme de cette réussite inattendue.
Quand vous ouvrez un centre de FIV, vous avez des grossesses et que vous n'aboutissez pas au bébé. C'est toute une inquiétude qui est installée. Je dois avouer que nous sommes quand même très comblés pour avoir eu trois filles à la fois.
Mais ce n'est pas pour autant que l'engouement se fait au niveau de la clinique. Mis à part le coût élevé que nécessite le processus, plusieurs couples doutent de l'efficacité de l'expertise béninoise en matière de fécondation in vitro et préfèrent expérimenter le marché sous-régional avec tout ce que cela implique en termes de dépenses. Awa, par exemple, y a englouti toute son économie et celle de son époux.
En partant, c'était difficile pour moi. J'ai mis 500 000 en poche, mon mari aussi 500 000 en poche. On a fait 3 jours, l'argent est fini, on est revenu. Après ça, on est parti 2 ou 3 fois. Avec les mêmes montants, 1 million, 1 million, on part et ça a marché. Mais avant ça, il faut payer une grosse somme, 7 millions. Avant de partir, j'avais vendu tous mes biens.
Le secteur public voudrait bien se doter d'un tel centre d'aide médicale à la procréation en vue d'amoindrir les dépenses. Cela permettrait au moins aux familles non fortunées d'avoir accès à la fécondation in vitro. Mais le projet titube en l'absence d'une volonté politique pour l'accompagner. Le professeur Justin Denapo, l'un des spécialistes ayant travaillé sur le projet, expose ici sa déception.
Ça nous fend le cœur. ça nous fait mal. On a de la compétence. Le bâtiment a été réhabilité par l'État béninois et on peine à réunir 355 millions pour pouvoir l'équiper. Nous, ce qu'on envisage dans le projet, c'est de ramener le coût à 500 000. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas une incitation à faire trop de bébés.
L'autre obstacle à l'épanouissement de la fécondation in vitro est la peur du candidatant. Beaucoup de femmes, par peur d'être montrées du doigt, préfèrent pleurer leur infertilité que de l'affronter aux yeux de la société. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondi pour VOA Afrique.
Merci de votre attention.